chez nous, à la fois le 12 septembre, quelque part c'est déjà tard par rapport au calendrier sur les ordonnances, et en même temps, c'est difficile de reprendre à la rentrée comme ça. Surtout le jour de la rentrée scolaire pour ceux qui ont des enfants qui rentrent aujourd'hui. Bon, bref, voilà. Donc, Assemblée Générale de rentrée pour commencer à discuter de l'impact de la réforme du Code du travail lancée par Macron. Chez nous, aussi dans nos professions, du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, on va tâcher de ne pas faire long et d'avoir un échange entre nous, dans l'Assemblée Générale, sur ce qui s'y passe. Il y aura une petite information tout à l'heure sur un autre sujet, je donnerai la parole à Franck. Et puis, par ailleurs, il était prévu qu'on donne la parole à Loïc concernant son procès. On en parlera juste après aussi. D'abord, un tout petit exposé, où est Guilin, sur quelques points. On ne va pas prétendre vous faire un cours, surtout dans l'acoustique de cette salle, sur ce qu'on a repéré comme étant néfaste à nos professions, mais quelques éléments que l'on a pointés particulièrement qui concernent nos professions et qui sont des arguments pour essayer de mobiliser nos collègues largement sur cette histoire. Je suppose, après ce tout petit élément, qu'il y aura des questions sur pourquoi est-ce que la CGT est seule parmi les confédérations. Je n'oublie pas la FSU est solidaire, mais pourquoi est-ce que FO nous lâche, pour dire les choses clairement. On en parlera aussi. Ils ne sont pas là pour se justifier, mais on va voir. Mais il y a des discussions à avoir sur la stratégie. Et puis voilà. Sachez aussi que des préavis de grève ont été déposés. Il y a un appel à la grève. Certains lieux nécessitent un préavis de 5 jours francs. Donc il y a un préavis de grève à France Télévisions et dans les entreprises du service public de télévision qui sont soumis à préavis. Il y a des préavis de grève dans tous les établissements publics, Opéra, Chaillot, Philharmonie et autres. Il y a des camarades de la Philharmonie qui sont présents. Voilà. Et puis, le panorama, sachez aussi que non seulement il y a une réforme du Code du travail qui est en cours à travers les ordonnances, mais derrière, il est prévu une réforme de la formation professionnelle. Donc là aussi, il y a des dangers, par exemple sur notre OPCA, l'AFDAS, qui sert les droits à la formation pour les professionnels, notamment du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, notamment les intermittents. Je dis notamment parce que ce n'est pas que les intermittents. Et puis une réforme de l'assurance chômage qui est prévue pour l'automne, mais sur lequel ils sont déjà en train de phosphorer, et donc qui présente de grands risques, à la fois sur la façon de la gouvernance, encore que l'UNEDIC, la façon de se gérer depuis sa création et surtout dans les dernières périodes, ne soit pas notre tasse de thé, mais surtout sur les droits qui pourraient être remis en cause, ce soit pour le régime général ou pour les intermittents, sous couvert d'améliorations à différents niveaux. Bref, nous avons de quoi discuter. Guilin, je te laisse la parole pour dire quelques mots sur les ordonnances.
Voilà, on a pris connaissance des ordonnances il y a très peu de temps. 5 ordonnances, 200 pages de texte, un vaste projet de casse du droit du travail. Ça fait suite à la loi El Khomri, c'est dans la même ligne, avec des réajustements à différents endroits. Et on va même beaucoup plus loin de ce qui était mis en place en août 2016. Le premier point qui nous intéresse directement dans nos secteurs, c'est les conventions collectives. Dans nos secteurs d'activité, tous les droits, notamment les droits collectifs mutualisés, type FNAS, CHSCT de branche, droit syndical, ce sont des droits qui ont été mis en place au niveau des conventions collectives et donc au niveau des secteurs d'activité. Nous, c'est des droits qui sont essentiels. Pourquoi les conventions collectives, elles sont importantes chez nous? Parce que on a 98% des entreprises qui sont des TPE et donc des petites entreprises de moins de 10, et donc il y a très peu d'accords d'entreprise. Donc là, avec la réforme de Macron, alors les médias ont fait tout un foin en disant qu'on renforçait la branche. En réalité, c'est pas du tout le cas. On va vider la branche de son contenu, et c'est-à-dire qu'on va fragiliser les conventions collectives, puisque jusqu'à présent, on avait un certain nombre de domaines obligatoires qui étaient traités au niveau des branches, les salaires, les classifications professionnelles, etc., bon, 6 domaines qui étaient réservés à la branche. Ces 6 domaines sont effectivement préservés. Là, on va avoir des difficultés, c'est que les autres domaines qui n'étaient pas cités dans la loi, ils primaient jusqu'alors sur les accords d'entreprise. Et par exemple, nos accords sur le FNAS, sur la médecine au travail pour les intermittents, tous les accords collectifs qu'on a mis en place pendant depuis 35-40 ans, ils sont fragilisés puisque désormais, avec la rédaction telle qu'elle existe maintenant dans le Code du travail, eh bien, les employeurs vont pouvoir déroger à nos accords collectifs par accord d'entreprise. Donc c'est toute la mutualisation qui est mise en danger aujourd'hui, avec cette difficulté qui est qu'on est sur des matières très techniques et que pour mobiliser sur ces points-là, ça va être compliqué. Voilà, ça c'est sur l'aspect branche. C'est un aspect qui est mal connu, mais qui est très important et qui aura des répercussions, sans doute, dans certaines entreprises où les employeurs sont les plus récalcitrants, enfin les plus offensifs. Là où c'est dangereux, c'est que dans nos TPE jusqu'à présent, il était aussi difficile de faire des accords d'entreprise. Et avec la loi Macron, aujourd'hui, on va donner la possibilité aux employeurs d'organiser des référendums à l'initiative de l'employeur pour demander aux salariés de signer d'accepter un accord d'entreprise qui serait défavorable par rapport à la branche. Donc si on met ces deux dispositions ensemble, on se rend compte que demain, nos garanties collectives vont être vachement fragilisées par les employeurs les plus offensifs sur ces questions. Autre point qui concerne nos secteurs, mais qui concerne également tous les secteurs d'activité, c'est le droit du licenciement qui est complètement mis à plat demain, enfin là. Jusqu'à présent, alors je vous donne quelques exemples, mais c'est pas exhaustif parce que franchement, on touche tout. Là, on va toucher le licenciement pour motif économique, on va toucher le licenciement pour motif personnel, et l'objet vraiment de la loi Macron, hein, ça a été annoncé comme tel, hein, c'est de libérer le travail. Libérer le travail, ça veut dire se séparer le plus vite possible et plus facilement des salariés dans nos secteurs sans aucune contrepartie. Voilà. C'est ça la doctrine qui est mise en place. Et donc, pour vous donner un exemple sur le licenciement pour motif personnel, jusqu'à présent, vous êtes en CDI, on ne peut pas se séparer de vous comme ça. On doit donner un motif et l'employeur, sur la lettre de licenciement, il va indiquer ce motif. Les juges, quand ils regardent, qu'ils apprécient la légalité du licenciement, ils vont regarder ce motif et on se tiendra qu'à ce motif. La loi Macron, elle prévoit quoi ? Elle prévoit que l'employeur aura la possibilité de modifier le motif après notification de la lettre de licenciement. C'est-à-dire, je vous ai licencié parce que vous étiez absent 3 fois. Ah mais non, finalement, je vous ai licencié parce que vous étiez un mauvais élément et c'est de l'insuffisance professionnelle. Voilà, on est dans cette situation. Je simplifie un peu parce que c'est un peu plus vicieux que ça, mais on est dans ces situations où finalement le salarié il peut plus s'appuyer sur la lettre de licenciement pour faire valoir ses droits. Droit qui sera difficile à faire valoir puisque le délai de prescription est ramené à 1 an maintenant pour faire valoir ses droits en matière de licenciement. Alors on avait eu le droit à une réduction massive avec Sarkozy et là on arrive à 1 an pour faire valoir ses droits, ce qui est compliqué parce que du coup si vous êtes licencié, souvent il faut une petite période pour trouver le courage de faire valoir ses droits et se renseigner, etc. On sait que c'est assez compliqué. Alors il y en a qui se retournent tout de suite évidemment, mais ce sera assez compliqué dans certaines situations de faire valoir ses droits et on sera prescrit, donc l'action sera nulle devant les prud'hommes. Autre point, on l'a entendu, on l'a carrément appris dans la presse, hein, c'était même pas l'objet des bilatérales qui ont précédé la publication des ordonnances, la rupture conventionnelle collective. Ça touche tous nos secteurs aussi. C'est la possibilité pour un employeur de négocier avec ses salariés d'un accord mutuel à un licenciement, enfin une rupture conventionnelle de plusieurs salariés. Donc ça, c'est une grande nouveauté, avec zéro contrôle. On est sur un plan de licenciement, en fait, hein, qui va passer comme ça. Alors, très honnêtement, ça n'a pas été négocié, donc je ne sais pas trop quoi en dire. Je ne sais même pas comment ça va être mis en œuvre, quelle va être l'ampleur du phénomène, mais on est dans des choses assez graves. Un autre point, c'est le fait pour un employeur qui est de négocier un accord d'entreprise. Ça, c'est une grande nouveauté. Où on va pouvoir négocier pour un employeur en l'absence de difficultés économiques. la réduction des salaires, le changement de la mobilité professionnelle. On peut vous dire, bah, vous bossez à Paris, bah, demain vous allez bosser à Colmar. J'ai rien contre Colmar, mais bon, ça peut être des difficultés familiales, etc. On va vous changer l'objet de vos contrats de travail. Et ça, jusqu'à présent, les employeurs pouvaient le faire que dans des circonstances où il y avait des difficultés économiques. Et surtout, le salarié avait la possibilité de refuser ce changement, qui était un changement des éléments substantiels du contrat. Il avait la légitimité de refuser puisqu'il avait signé son contrat. Désormais, l'accord d'entreprise, il prime sur le contrat de travail. Demain, le salarié qui refuse ces éléments, il se fait licencier pour un motif qui est licite. Voilà. Alors la loi précise quand même, grand bénéfice qui est accordé aux salariés, qui pourra prétendre à l'assurance chômage, merci. Voilà. Alors j'en ai peut-être oublié, il y a encore plein d'autres choses dans ces ordonnances. Sur la rupture conventionnelle collective, j'oublie quelque chose, c'est que c'est une disposition qui est anti-salariés qui ont un certain âge. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça va se substituer à ce qu'on appelle les PSE. Dans les plans sociaux, jusqu'à présent, lorsqu'il y avait un plan social, on avait une obligation d'accompagnement de retour à l'emploi pour les salariés qui étaient concernés par le plan social. Et l'employeur, sur les licenciements économiques, avait un an pendant lequel il ne pouvait pas réembaucher des personnes au même poste. Là, avec ce système de rupture conventionnelle collective, on peut se séparer des effectifs les plus âgés du jour au lendemain. Bon, il doit avoir un certain accord des personnes, mais il n'y a pas d'accompagnement de retour à l'emploi. Il n'y aura pas non plus d'impossibilité de réembaucher l'année suivante, ce qui fait qu'on peut remplacer toute une équipe d'un certain âge par une équipe d'un autre âge. Voilà, donc je ne sais pas ce que j'ai oublié, il y en a tellement que je... Les prud'hommes, bah, il y a le recours aux prud'hommes qui sont limités à un an. Ah, ça, j'en ai parlé du délai de prescription, ouais. Et, ah oui, alors, on nous dit qu'on doit renforcer la branche, enfin, qu'elle est renforcée. En réalité, on va confier aux partenaires sociaux qui négocient dans les conventions collectives, notamment la CGT dans nos secteurs ou d'autres. On va nous confier le soin de définir des éléments qui, jusqu'à présent, soit dépendaient de la loi, soit n'existaient pas du tout dans nos secteurs. Donc ce qui dépendait de la loi, par exemple, on va nous dire, c'est à vous de définir combien de CDD sont licites successivement dans vos secteurs. Ça, avant, on avait une limite qui était fixée par la loi, c'était borné par la loi. Maintenant, c'est aux partenaires sociaux de se mettre d'accord là-dessus. C'est pas rien quand je dis ça, parce que c'est une compétence qui n'est plus la même. C'est-à-dire que là où on avait nos représentants nationaux qui devaient décider des règles essentielles autour du droit du travail, on est en train de transférer ces compétences aux partenaires sociaux avec les rapports de force qui sont en ce moment si défavorables. L'autre point, c'est le CDI de chantier qui, dans nos secteurs, va faire du mal. Les employeurs, d'ailleurs, sont assez preneurs de ce dispositif. L'idée, c'est d'avoir un CDI par mission. Donc, c'est plus un CDI, hein, ça passe. C'est un CDD maquillé, mais c'est un CDI par mission. Alors dans nos secteurs, c'est simple, hein, vous avez un spectacle, on va vous faire un CDI, quoi. Vous avez, je sais pas moi, un montage sur une prod, on va vous faire un CDI. Et puis, la grande différence avec le CDI qu'on a actuellement, c'est que le motif du licenciement, il est déjà préécrit. On sait à quel moment vous allez être licencié, quoi. Mais sauf que là, sur un projet... C'est l'employeur qui décidera de la fin du projet. Voilà. Donc c'est lui qui décidera quand vous licenciez. Et vous, vous n'aurez pas de visibilité. Et surtout, on n'a pas encore exploré la question, hein, parce que c'est tout nouveau. Mais ça va avoir nécessairement des conséquences sur l'assurance chômage, sur l'indemnisation aux annexes 8 et 10. Voilà, il y aura forcément des conséquences. Donc là-dessus, nous, on va avoir besoin de soutien. Dans ces négociations-là, on va avoir besoin de soutien pour s'opposer à la mise en place de ces CDI de chantier qui menacent vraiment nos activités. Voilà.
Oui. Donc, comme l'a dit Guilin, il y a quelques points, enfin, il y a beaucoup de points qui nous concernent directement, mais il y a des points sur lesquels nos employeurs sont déjà à l'affût, certains de nos employeurs, pour être honnête, mais notamment dans l'audiovisuel, on a déjà des télédiffuseurs qui sont très intéressés par avoir le CDI de chantier. On a une camarade qui a mené une bataille pour la requalification de son contrat à Radio France, c'est de quoi elle parle, Farida. Toutes ces histoires, les deux points qu'a abordé Guilin, c'est-à-dire le fait que les CDD, on puisse aller largement au-delà par accord de branche de deux CDD limités à 18 mois, on puisse aller jusqu'à 5 ans. Donc c'est la précarité qui est encore renforcée, là où c'est de l'emploi pérenne et permanent. Et par ailleurs, le CDI de chantier, c'est encore mieux, parce que c'est à la fois contre le CDI et contre le CDD. C'est un peu comme le CPE en 2006. C'est-à-dire que c'est un CDI officiellement, mais qui n'est un CDI finalement que pour l'employeur tant qu'il a besoin de vous. Le jour où il n'a plus besoin de vous, il vous lâche. C'est même mieux qu'un CDD. Un CDD, on t'embauche pour une durée de 6 mois, t'es obligé d'être... ton employeur doit te payer jusqu'au bout des 6 mois. On peut pas te licencier en cours de CDD, sauf pour 4 fautes graves ou 4 fautes lourdes. Bon, mais c'est quand même des cas assez rares, hein, même si des fois on a envie de s'énerver contre son employeur. Donc ces questions-là, elles sont... Alors, comme l'a dit Guilin, il y a un point, c'est comme sur la loi travail, à quelques nuances près. La question est que, comme on renvoie beaucoup de choses aux accords de branche, dans la branche, il y a des négociations, et la grande question va être de faire en sorte... Alors déjà, partons pas battus, hein, la loi travail Guy Sicel n'est pas encore passée, même si on sent que le calendrier est très rapproché. Si elle passe... Les négociations de branche, on va voir, nos employeurs vont devoir sortir du bois, et certains envisagent déjà de réclamer des aménagements et autres, et il faudra qu'ils trouvent des signataires. Bon, et puis par ailleurs, dans les entreprises, il y a des risques que, notamment dans des petites entreprises où on n'est pas présent, et il y en a de nombreuses, hein, parce qu'il y a énormément de petites entreprises, il l'a dit, dans nos secteurs, et qu'il y ait des tentatives de signer des accords. La cerise sur le gâteau, c'est que donc dans cette ordonnance, il est prévu qu'on puisse négocier avec un salarié même pas mandaté par un syndicat. L'employeur décide de discuter avec son directeur adjoint, et c'est ça l'accord d'entreprise, quoi, pour quelques personnes. Donc, bien sûr, il va falloir être très vigilant. Maintenant, c'est pas gagné dans les branches, d'autant plus qu'on est quand même dans position majoritaire dans un ensemble de conventions collectives, mais c'est aussi pas gagné entre conventions collectives. C'est pas le cas partout. Dans la Presta, par exemple, on est moins fort que dans des secteurs du spectacle vivant, public ou privé, ou dans l'audiovisuel et le cinéma, et on a le risque que certains aillent, suivez mon regard, aillent signer des accords qui nous soient défavorables, acceptant de mettre en œuvre les dispositions de la loi travail 2016 ou de la loi travail 2017. Voilà. Ceci étant dit, on s'est pas réunis pour se dire comment on se suicide collectivement. Loïc, même si on a des mauvaises nouvelles aussi à donner après, la question est de savoir comment on essaye d'élargir l'auditoire. On n'est pas très nombreux ce soir. On a du boulot. On a appelé à une nouvelle assemblée générale le 11, ici même en l'absence de réponse pour l'instant de théâtre. On prépare la mobilisation du 12, et puis il y a des questions sur qu'est-ce qu'on fera après le 12, quoi. Il faut déjà réussir le 12, y compris réussir les grèves dans plein d'endroits, et donc faire en sorte qu'on soit nombreux. On n'a pas encore le point de rendez-vous pour la manif, mais le parcours de la manif, c'est Bastille, Place d'Italie, et on fera un rendez-vous commun pour ce qui est de la CGT, entre CGT Spectacle, CGT Culture, CGT Philpac, donc le livre papier-carton et les journalistes. Voilà. On aura le point de rendez-vous. Est-ce qu'il y a des questions ?
Moi, je veux revenir sur cette histoire de contrat de chantier et de mobilisation. Le MEDEF est derrière tout ça, on le sait. Le contrat de chantier, ça ne peut pas être autre chose que le glas qui commence à sonner pour la fin des 8 et 10. C'est ça qu'ils ont dans la tête. Je pense pas me tromper en disant ça. Donc, pour mobiliser, je pense qu'il faut vraiment... il faut parler de ça, quoi. Il faut parler de ça, même si c'est compliqué suivant les secteurs. Ce sera plus facile par projet ou avec des contrats longs. Effectivement, dans la presta, où certains ont des contrats très courts sur les tournages, je ne sais pas. Mais cette histoire de contrat de chantier, moi, je suis persuadée, ce qu'ils ont dans la tête, c'est sonner à un moment donné la fin des annexes. Ça va s'articuler avec la révolution à l'UNEDIC, à l'assurance chômage. Donc, il faut absolument mettre la pression là-dessus auprès de tous les intermittents qui ne sont pas là. Et ceux qui disent qu'ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est franchement, quoi.
Alors, Farida, au passage, m'explique ce que c'est qu'un contrat de chantier pour savoir ce qui existe. Je passe la parole à Laurent. Le contrat de chantier existe déjà dans certains secteurs du bâtiment et travaux publics. Le principe, c'est qu'on dit t'es en CDI, sauf que parmi les motifs de licenciement, contrairement à d'autres CDI, où tu dois justifier difficultés économiques, etc., etc., là, si le chantier s'arrête, même plus tôt que ce qui était annoncé au début, c'est un motif de licenciement. Donc, tu es licencié, ton ancienneté elle est calculée en fonction de la durée, donc en général, avec un contrat de quelques mois, t'as que dalle, et t'as même pas la prime de 6% de précarité qui est prévue pour les CDD. 10, bon, d'accord. Et donc, voilà, donc c'est tout bénef pour l'employeur. Il te garde le temps qu'il veut et il te jette quand il veut. C'est ça la question. Et donc ça fait rêver des employeurs, par exemple, de l'audiovisuel public et privé, qui aimeraient bien avoir ce genre de choses, parce que ça s'appelle des contrats de grille, des contrats d'émission, des machins illégaux jusqu'à présent, mais où on t'embauche pour la durée de l'émission. Puis l'émission s'arrête parce qu'elle ne plaît pas au directeur, elle ne plaît pas à telle ou telle, n'importe quelle raison, l'émission s'arrête, c'est fini. Par contre, toi, tu es tenu d'y rester jusqu'à ce que l'émission continue. Donc c'est une question. Et là, on sait ce que c'est par rapport... Alors évidemment, ça concerne particulièrement des secteurs dans lesquels il y a, y compris des contrats précaires qui devraient relever de CDI. On connaît bien ça dans nos secteurs parce que nos employeurs connaissent les contrats précaires liés à l'intermittence savent très bien que c'est plus intéressant. Mais il y a encore mieux que l'intermittence. Dans ce domaine-là, avec les contrats de chantier. Et c'est tellement net que dans un rapport qui a été rendu au ministère de la Culture et du Travail conjointement au début de l'année 2017, sous le précédent gouvernement, il y a eu un rapport sur l'intermittence dans le diesel public qui rappelait l'importance de l'usage public, etc. Et comme par hasard, la piste qui est évoquée là-dedans, c'est contrat de chantier, contrat d'émission, voilà, un truc de ce genre-là, CDI d'émission, pour le public, pour remplacer les intermittents qui ne devraient pas l'être, sauf que ce n'est pas des vrais permanents, et avec l'idée que ces CDI pourraient ouvrir droit à l'annexe 8, donc celle des techniciens de l'audiovisuel et, du cinéma et du spectacle vivant. Donc c'est clairement en tête pour certains, au point que ça a y compris gelé des négociations que nous avons en cours, que nous avions demandé avec la FESAC, nos employeurs avec qui nous avons signé l'accord du 28 avril 2016, sur le recours aux CDD d'usage, et qu'on voulait mieux encadrer, et qui patinent parce que ça les intéresse pas de l'encadrer pour la majorité d'entre eux, quoi. Quand on commence à discuter avec certains, les autres sont pas d'accord, entre eux ils sont pas d'accord, et du coup c'est le plus petit dénominateur, et le plus petit dénominateur c'est le maximum de précarité évidemment pour eux.
Bonsoir, simplement une précision. La première fois que les employeurs ont proposé un contrat de chantier dans l'audiovisuel, c'était en 2004, voilà, au moment de la négociation de la convention collective de la production audiovisuelle. Et à l'époque, on avait refusé, nous, avec véhémence, le contrat de chantier. Voilà. Dans les secteurs du spectacle enregistré, où il y a des émissions assez longues, des téléfilms récurrents, des séries, voire même dans le secteur, puisque Sophie l'a évoqué, de l'animation, où les périodes de contrat peuvent être très très longues, bien évidemment qu'ils vont s'engouffrer dans le dispositif contrat de chantier. Et bien évidemment, notamment qu'ils auront avec eux la CFDT. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un moyen, effectivement, de faire baisser le nombre des salariés intermittents et qu'ils ont ça en tête. Alors après, on a d'autres inquiétudes sur le régime d'assurance chômage, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'il est question aussi d'une remise à plat de l'ensemble de l'assurance chômage. Et compte tenu de ce qui est contenu dans les ordonnances, il y a fort à parier que ce qui sera contenu dans la réforme de l'assurance chômage n'ira pas dans le bon sens. Mais au-delà du contenu même des ordonnances qu'il faut qu'on continue de travailler, la question de fond, c'est qu'on voit bien à travers ce projet que c'est un projet de régression sociale généralisée. Voilà. Et qu'à un moment donné, si un certain nombre de salariés, voire si la majorité des salariés prend pas la mesure, effectivement, de ce qu'il y a derrière, à savoir la régression sociale généralisée, on pourra pas s'en sortir. Pourquoi je dis ça ? Parce que on s'est mobilisé à la CGT sur la loi travail. Très souvent, on s'y est un peu épuisé. On y a laissé certains nos chaussures et on n'a pas gagné sur la loi travail. Voilà. Et est-ce qu'on est en mesure de gagner sur la loi travail XXL ? C'est une vraie question et c'est une vraie gageure. Et ça nécessite effectivement que le débat ait lieu dans notre société, dans l'ensemble des secteurs, et y compris que ce soit un débat intersectoriel, j'ai envie de dire. Voilà. C'est-à-dire que la loi travail XXL, ça concerne l'ensemble des salariés. Voilà. Il faut bien l'avoir en tête.